En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le mardi 23 octobre 2012, l'école des Chartes accueillait une conférence de Michel Pastoureau, historien médiéviste français, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et de Daniel Boller, professeur de littérature du Moyen-Âge à l'Université Michel-Montaigne de Bordeaux III. Leur échange porte sur l'histoire symbolique du Moyen-Âge occidental. Cette conférence fait partie du cycle des mardis de l'École des Chartes qui organise des rencontres et des débats toute l'année ouverts au public. Pour connaître le programme des conférences à venir, je vous invite à vous rendre sur le site de l'École des Chartes www.enc.sorbonne.fr. Retrouvons tout de suite Daniel Boller et Michel Pastoureau pour une histoire symbolique du Moyen-Âge.
Pour commencer, j'évoquerai le parcours, l'étonnant foisonnement et l'étonnante prolixité des publications de Michel Pastoureau depuis de très longues années. Je ne sais pas si j'ai la totalité de votre archéologie de vie, mais vous avez commencé par l'histoire quotidienne des Chevaliers de la Table Ronde. C'est un de vos tout premiers volumes.
Écrit pendant mon service militaire, j'avais la chance d'être au musée de l'armée, un planqué. Et l'après-midi, je tenais la bibliothèque du musée et personne ne venait jamais dans cette bibliothèque. Donc, dans le prolongement de ma thèse d'École des Chartes, où je m'étais intéressé aux armoiries littéraires, entre autres, j'ai écrit ce livre pour la collection d'Hachette, La vie quotidienne, au temps des Chevaliers de la Table Ronde. C'était en effet mon premier livre.
Et vous n'avez pas cessé de les fréquenter.
Voilà, non, la légende arthurienne reste un de mes terrains d'enquête préférés. Ce livre a vieilli, il a presque 40 ans.
Oui, mais entre-temps, vous avez beaucoup publié, une quarantaine d'ouvrages, et rien que pour la dernière décennie, des ouvrages qui ont créé un véritable événement dans le monde des chercheurs. Largement aussi, j'insiste sur ce point, dans le monde de la, ce qu'on appelle la vulgarisation, au sens noble, de la diffusion des savoirs. Les émissions diverses dans les médias, les libraires qui ont si largement accueilli l'auteur que vous êtes, le monde éditorial qui a été très accueillant, très enthousiaste. Année après année, vous sortez un livre et soulignant ainsi la diversité des champs dont vous vous occupez. Et ce qui m'a, en faisant ce trajet, cette rétrospection pour aujourd'hui, pour venir parmi vous. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est la façon très circulaire. Vous êtes un chercheur qui fonctionne en circulation d'ondes. Vous commencez par un article, et puis vous le poursuivez, et puis vous creusez, puis ça devient un livre, et ça devient un très beau livre. Donc nous connaissons essentiellement Michel Pastoureau par des livres qui possèdent certes, pour ceux qui s'intéressent peut-être moins au Moyen-Âge, un caractère ornemental, je pense, à l'héraldique, je pense au bestiaire, je pense à ce magnifique livre sur le noir, sur le bleu. Et c'est en circulation d'ondes, et j'ai parfois eu la chance, moi-même, en vous sollicitant, en 1980, donc il y a bien longtemps, je m'inscris dans le temps aussi, je vous sollicitais pour un article dans un ouvrage, dans un numéro de revue qui s'appelait Le Moyen-Âge. Maintenant, on faisait le point, et Michel Pastoureau me dit, j'aimerais bien parler du bleu. C'était le début du bleu.
L'article s'appelait « Et puis vint le bleu ».
Et puis vint le bleu.
C'était sur la révolution bleue, entre guillemets, des 12e et 13e siècles. Et c'était quand, Daniel ?
En 81.
81.
Enfin, du moins, la parution en 81. Ça a été couvé pendant un ou deux ans, quand même, avec quelques difficultés.
C'était un de mes premiers articles consacrés à l'histoire des couleurs, seul, si je puis dire. Pas en liaison avec l'héraldique ou l'emblématique ou l'iconographie. La couleur pour la couleur.
Alors prenons les champs dont vous vous occupez et qui expliquent aussi la cohérence d'un parcours étonnant qui se termine, mais on a le temps de parler de la fin, par un domaine extrêmement sensoriel qui personnellement m'intéresse beaucoup et par cet ouvrage magnifique intitulé « Les couleurs de nos souvenirs » où vous avez accepté de rendre plus subjective en quelque sorte votre parcours. Mais tout d'abord, Michel Pastoureau est archiviste paléographe. Il a travaillé sur les sceaux à la Bibliothèque nationale, numismatique, sigillographie, héraldique. Ce sont donc des débuts d'une documentation fabuleuse qui lui a permis de développer dans les domaines dont nous allons parler. L'héraldique, le travail sur les emblèmes, très rapidement, un souci très vif de s'attacher au monde des signes sociaux et d'annoncer, et là j'ai suivi votre parcours lexical de près, très rapidement vous avez parlé du monde de l'imaginaire. Ce qui ne va peut-être pas de soi dans le monde des historiens.
Oui, pour moi historien, et je pense que c'est vrai également de tous les chercheurs en sciences humaines, l'imaginaire, ça existe. C'est une réalité, ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est un niveau de la réalité ou une réalité un peu différente de ce que nous appelons la réalité. Dans tout mon travail, j'ai essayé de me battre pour essayer de faire comprendre que quand on étudie une société donnée, il faut aussi étudier son imaginaire, sinon on mutile complètement les enquêtes que l'on conduit. Mais ça n'a pas toujours été évident, et chaque fois que j'ai entamé un sujet, j'ai rencontré quelques difficultés pour comprendre qu'il n'était pas totalement futile. Ça a commencé déjà presque dans cette salle, en tout cas dans cette maison, avec mon sujet de thèse de l'École des Chartes consacré aux bestiaires héraldiques médiévales. Ça ne semblait pas sérieux, à la fois parce qu'il s'agissait de l'héraldique qui était une discipline jugée un petit peu rétrograde, sinon réactionnaire, même à l'École des Chartes. Et puis surtout les animaux qui n'avaient rien à faire, on était à la fin des années 60, qui n'avaient rien à faire sur le devant de la scène historique et étaient abandonnés à la petite histoire et au recueil d'anecdotes. Et imposer ce sujet n'a été possible que parce que le directeur de l'école d'alors, Pierre Marot, s'est souvenu que lui-même, dans sa jeunesse, avait eu un goût pour l'héraldique lorraine et que, ma foi, ça n'était pas complètement dépourvu d'intérêt. Donc j'ai pu imposer ce sujet et en fait, toutes mes recherches ultérieures en sont sorties de cette thèse d'école. Trois directions que Daniel vient de rappeler. L'héraldique et l'emblématique d'un côté, je n'ai jamais arrêté. L'histoire des animaux, de la zoologie, des rapports entre l'homme et l'animal, de l'autre. Et puis l'histoire des couleurs, tout problème confondu, qui est mon terrain d'enquête qui m'a fait connaître, mais auquel je travaille peut-être même dès avant d'entrer à l'École des Chartes. J'avais ce goût pour les couleurs. J'appartiens à une famille où les peintres étaient assez nombreux, donc petit garçon, j'ai fréquenté très tôt des ateliers d'artistes qui sont des magnifiques terrains de jeu pour un petit garçon. Et donc ce goût des couleurs doit probablement se situer en amont du goût pour l'héraldique, qui est lui-même pourtant très ancien.
Le problème de l'imaginaire se pose aussi pour nous littéraires dans la mesure où le cloisonnement est encore très marqué. Je le vois dans le monde universitaire que je fréquente et que j'occupe encore par moments, tout en étant professeur émérite. L'imaginaire est comme un canton à part. Surtout, nous parlons pas de documents sociaux. C'est extrêmement difficile de marquer, disons, la cohérence même des élaborations, et c'est pourquoi nous utilisons, ou du moins moi j'impose de plus en plus le terme de représentation, ce que mes collègues ont fini par...
Oui, les mots s'usent, quand Daniel et moi étions étudiants, et d'autres dans cette salle, le mot mentalité était très à la mode, on disait histoire des mentalités, aujourd'hui plus personne n'ose prononcer un tel syntagme, histoire des représentations, histoire des sensibilités, oui, mais mentalité, ça fait très très ringard. Donc, voilà, et les mots que nous employons aujourd'hui en 2012, dans une quinzaine ou une vingtaine d'années, seront eux aussi ringards, plus ou moins. Donc, les problèmes d'historiographie ont aussi leur importance, et une des grandes questions que je me suis posée au début de chacune de mes recherches, c'est pourquoi ces terrains sur lesquels j'aime travailler sont-ils des terrains peu défrichés, voire laissés à l'abandon? L'histoire des animaux, l'histoire des couleurs, l'héraldique. Et c'est pour ça que fréquenter des spécialistes hors de la stricte discipline histoire m'a été utile, des historiens de la littérature, comme Daniel, comme d'autres. On peut évoquer ici la mémoire de Jacques Monfrin, qui, quand j'étais élève de l'école, m'avait conseillé d'aller voir Jean Frappier, qui m'a très bien accueilli et encouragé à travailler sur les armoiries des chevaliers de la Table Ronde, en me disant « je n'y connais rien, mais ce doit être passionnant ». Et c'était en 1970. Voilà, donc des historiens de la littérature, des linguistes, des ethnologues, des spécialistes d'autres disciplines. Avec les animaux, je suis fréquemment en contact avec des zoologues et des naturalistes, et au muséum, nous avons des séminaires communs et ça se passe très bien, je dois dire.
Oui, c'était ce que j'allais dire. Ce qui m'a frappé chez vous, c'est que vous êtes un naturaliste dans l'âme, passionné par le végétal, par la matière, par les animaux. porteur de signes en littérature, Dieu sait. Les animaux en diachronie aussi, vous les suivez avec cette admirable histoire de l'ours, le roi déchu. Vous êtes un observateur de la nature, un observateur du vivant, interrogeant le rapport de l'homme au monde. Et ceci, pour des littéraires, n'est pas indifférent.
Oui, je suis spécialiste d'histoire culturelle, sociale et culturelle, mais ça ne m'empêche pas de m'aventurer sur des terrains qui relèvent du monde naturel. Parfois, j'ai du mal à faire comprendre à des zoologues ou à des botanistes que l'histoire naturelle, au fond, c'est une forme d'histoire culturelle d'un type particulier. Eux, ils voudraient le contraire. Non, moi, je pense que tout est culturel, ou presque tout est culturel, du moins dans les enquêtes que je conduis, et que, au fond, l'histoire naturelle, ce n'est qu'une branche de l'histoire culturelle. On le voit bien, les historiens des sciences le savent très bien. Chaque génération, chaque époque croit être parvenue à une certaine vérité, et puis les choses se complètent, se transforment, se déplacent, et ce qui était vérité un jour, deux siècles plus tard, ça n'est plus qu'une vérité historique. Ça n'est pas toujours évident de faire comprendre cela aujourd'hui à des spécialistes de sciences dures. En tant que historien des couleurs, je rencontre assez souvent des chimistes et des physiciens. J'ai moi-même dû en autodidacte améliorer mon bagage en physique et en chimie, parce que je suis vraiment littéraire au départ. Je peux témoigner d'ailleurs que améliorer son bagage quand on est autodidacte en chimie, c'est possible. En physique, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça ouvre des débats sans fin avec des spécialistes de sciences dures. Certains pensent que nos savoirs d'aujourd'hui sont de l'ordre de la vérité, parce que aujourd'hui, avec l'informatique, les preuves, etc., bien, pour l'historien, évidemment, ça n'a pas de sens. Les choses vont continuer de progresser, et ce que croient les physiciens d'aujourd'hui, dans 5 ou 10 siècles, ça fera rire ou sourire les physiciens de demain. C'est évident. Mais c'est pas toujours facile de faire comprendre ce genre de choses à des spécialistes de sciences dures, et tant pour la zoologie ou la botanique que pour les couleurs, je me heurte parfois à des mécompréhensions de cette nature. Eux-mêmes, d'ailleurs, doivent raconter de leur côté. Il y a un type en sciences humaines qui pense que tout est culturel et qui ricane de nos travaux. Voilà. C'est vrai que ça m'arrive assez souvent de participer à des colloques pluridisciplinaires autour des couleurs, par exemple, où il y a des peintres, des linguistes, des sociologues, des historiens, des chimistes, des physiciens. On est tous très contents de se retrouver pour parler de la couleur, mais au bout de 3 minutes, on a compris qu'on parlait pas de la même chose. C'est parfois difficile d'échanger. Oui.
À partir de l'héraldique, vous allez dans le domaine foisonnant de l'image, et c'est là que vous rencontrez le vêtement, dans les pratiques sociales et dans la représentation par l'image, le vêtement. Vous développez l'intérêt pour l'apparence, pour le port du corps, pour des phénomènes visuels presque imperceptibles pour nous, si notre œil n'a pas été sollicité. La rayure, par exemple, le port du jaune, où apparaît le jaune. Plus globalement, le monde des couleurs, suivi très patiemment dans leur portée sociale symbolique. Et à chaque fois, vous soulignez qu'il s'agit là de mouvements de société, ce qui sollicite ou suggère une leçon de grande prudence. Et là, comme littéraire, je peux affirmer que la prudence est impérative, car on a tendance, nous en tout cas, à universaliser les symboles, ce à quoi Michel Pastoureau nous rend extrêmement attentifs. J'en sais quelque chose pour les étudiants que j'ai eus pendant des générations. Il y a de l'universel dans la couleur, il y a de l'universel dans tout le monde des représentations physiques, et nos étudiants ne s'en défont pas. Il y a eu des lectures, ma foi, qui appartiendraient peut-être au monde de l'autodafé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des lectures que je finissais par interdire à mes étudiants, parce que, somme toute, il y a un universalisme du blanc, du bleu, du noir, et voilà, et on s'arrête là, et on s'arrête devant un mur.
Oui, c'est un des grands dangers des terrains sur lesquels je travaille. Et en plus, s'ajoute à cela l'intitulé de ma chaire à l'École pratique des hautes études, symbolique médiévale, symbolique moderne. Ça veut rien dire, au fond. Ça me donne la liberté de faire tout ce que je veux, mais ça attire chaque année, en début d'année, un certain nombre de personnes qui pensent que je vais parler d'ésotérisme et que, me connaissant comme plutôt médiéviste, crois que je vais délirer autour du Graal, des cathares, de l'alchimie, des templiers, des bâtisseurs de cathédrales et de tout ce qui est ésotérisant, alors que vraiment mon travail est très très loin de tout cela. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire symbolique, c'est le monde des représentations et de l'imaginaire, mais en tant qu'il concerne l'ensemble de la société, pas les significations caché derrière tel ou tel animal, végétal, couleur. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est omniprésent et qui est à l'œuvre dans tous les documents, médiévaux ou modernes, ou même antiques, puisque je déborde souvent vers l'Antiquité romaine. Mais c'est un des dangers de ces disciplines, ça déborde souvent sur des livres ni fait ni à faire, qui jonglent avec le temps et avec l'espace. Comme le disait Daniel, on est en train de regarder une miniature médiévale, on s'interroge sur le pourquoi tel personnage porte un vêtement jaune, et on va nous expliquer que dans la Chine impériale du deuxième millénaire avant notre ère, le jaune, ceci, cela, donc dans cette miniature. Non, on ne peut pas travailler comme ça, bien sûr. Et pourtant, il y a des auteurs qui le font et produisent des ouvrages qui sont des succès de librairie. Donc le vrai document, c'est de s'interroger pourquoi sont-ils des succès de librairie. Ça redit pas mal sur notre époque et sur nos contemporains, mais dans mon travail d'historien, évidemment, de tels livres ne me servent absolument à rien, rien du tout.
Vous êtes certainement tous trop savants pour que cette tentation vous ait guetté à un moment quelconque de votre parcours, mais je peux vous assurer que de jeunes étudiants à l'université sont très tentés par ces facilités-là. On les avertit, on leur dit, au moins pour une soutenance de thèse, je ne voudrais pas voir figurer tel ou tel titre, là, par pudeur, je camoufle les noms. N'empêche, c'est très séduisant, c'est une facilité absolument désolante. Mais ce que je voudrais, en vous écoutant, je pensais aussi, cher Michel, à ce que vous avez fait, non seulement c'est la publication de ces livres magnifiquement illustrés, magnifiquement commentés, dont le livre qui paraît aujourd'hui en poche est en quelque sorte la synthèse utile, Dieu sait. Ce qui m'a toujours frappé, c'est cette dimension que l'on trouve aussi dans l'école des historiens, Georges Duby évidemment, Jacques Le Goff largement, c'est ce désir de communiquer qui n'est pas nécessairement celui du studiolo, du chercheur, mais qui peut être un réel fardeau pour la vie quotidienne, des activités médiatiques, enfin, dont je vous demanderai bien ce qu'elles vous ont apporté. Mais tout ce que je sais, c'est que moi j'en vois les effets dans le monde que je fréquente. Vous laissez des impressions très fortes, que vous alliez dans les grandes librairies de province, par exemple, où le public est très demandeur, Toulouse, Mola, Bordeaux, votre aptitude au dialogue et cette simplicité de transmission qui imprègne vos écrits, car on vous lit admirablement bien. Ceci donne le ton des rencontres de toutes sortes, et qui, en quelque sorte, pardonnez-moi, je ne vais pas faire de la géographie, mais vous avez créé un style qui vous est propre, dans la très belle foulée de Jacques Le Goff, et je crois que c'est j'ai vécu, pour ma génération, un moment de vraie bénédiction.
Ça peut être dangereux aussi, c'est-à-dire que, menant double carrière, en quelque sorte, de professeur d'université, d'érudit d'un côté, et puis de vulgarisateur parlant souvent dans les médias ou dans les écoles primaires, voire dans les collèges et les lycées. Ce sont deux mondes qui devraient être assez différents. Donc, pour moi, ils sont pas très différents, et j'ai fini par créer un style à la fois oral et écrit qui est entre les deux. Et quand j'écris un article savant sur, le vocabulaire des couleurs en latin médiéval, ça m'est arrivé encore récemment, j'ai du mal à trouver un ton qui soit propre à l'érudition, parce que j'écris beaucoup pour un public large, et bon, j'ai fait un style Michel Pastoureau dans les deux cas. Oui, j'ai très tôt rappelé à propos du livre que j'ai écrit pendant mon service militaire, dans la collection La vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde, c'est une collection destinée à un public très large, donc mon premier livre, ça n'était pas un livre hyper savant, si je puis dire, et donc j'ai continué à publier dans les deux directions. Celui-là, c'est un recueil d'articles savants. L'autre, Les couleurs de nos souvenirs, qui est présent sur cette table, c'est une autobiographie, quasiment. Donc, c'est un tout autre genre. J'ai énormément écrit. Je ne peux même pas faire ma bibliographie. Mais enfin, donc, une cinquantaine de livres et puis je ne sais pas combien d'articles. Et toujours dans des genres un peu variés, mais qui finissent par se rejoindre. En tout cas, dans mon esprit, il y a une cohérence, ne serait-ce que par rapport à moi-même. Et puis, j'aime bien, en effet, aller parler à la radio. Ça n'est pas du tout intimidant, la radio. Je m'en suis rendu compte. Moi, j'étais un étudiant et un jeune chercheur timide. Mais cette timidité a rapidement disparu, et à la radio, on ne vous voit pas, alors on n'est pas intimidé. Ça apprend des choses aussi. Par exemple, c'est en faisant des émissions de radio, que je me suis aperçu que je pouvais parler pendant une heure ou plus des couleurs sans jamais les montrer, et cela ne gêne absolument pas les auditeurs. Évidemment, je parle des rapports entre couleurs et société. Moi, si je parlais des couleurs chez Poussin ou chez Matisse et que je ne montre rien, ce serait un peu gênant. Mais ça m'a fait prendre conscience de ce phénomène et je le relis à des enquêtes que j'ai lues récemment, conduites par d'autres, bien sûr, sur les rapports entre les non-voyants et la couleur. Eh bien, les enquêtes les plus récentes montrent que un non-voyant de naissance arrivé à l'âge adulte a à peu près la même culture chromatique qu'un voyant. Ça prouve que pour acquérir un bagage culturel dans le domaine de la couleur, il n'y a pas besoin de les voir. Ce que confirme une partie des expériences radiophoniques, ou même parfois de mon enseignement, depuis que j'ai quitté pour enseigner la Sorbonne pour l'Institut National d'Histoire de l'Art. Les appareils de projection sont d'une telle complexité pour moi, en tout cas, que je ne m'en sers plus. Donc moi qui suis spécialiste des images et des couleurs, je ne projette plus rien. Et il y a version latine tous les jeudis matins pour tout le monde, à la place des images. Mais ça n'est pas gênant. Pour parler de l'histoire des couleurs ou pour l'histoire des animaux et des représentations, ben je le fais sans images ou avec d'affreuses photocopies, comme si j'avais 50 ans de retard. Mais je crois que ça ne gêne personne, au fond.
Que pensez-vous de l'œil intérieur de Olivier Sacks?
Ah, ça, c'est encore un autre problème. Comme je suis plutôt spécialiste de sociétés anciennes, je suis de ces chercheurs qui ont peu de prise sur l'individu. Ce que je connais, ce sont les sociétés. Chercher à mieux cerner tel ou tel personnage et lui appliquer des remarques venant de la psychologie ou de la psychanalyse, c'est un exercice difficile. Tous les deux, nous sommes médiévistes. Vous, vous êtes en plus spécialiste des textes littéraires. Il y a des héros littéraires que nous connaissons beaucoup mieux que des personnages historiques. Nous connaissons mieux Tristan, par exemple, que Philippe Auguste, pour prendre deux presque contemporains. Mais évidemment, c'est un Tristan indirect. Ce sont les autres qui en parlent. Enfin, Philippe Auguste, c'est un peu la même chose. Donc je travaille davantage sur les groupes, sur la société, ce qui me fait dire, et ça énerve parfois mes auditeurs à l'école des hautes études, que les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société, que c'est la société qui fait la couleur, ce n'est pas la nature, ce n'est pas l'œil, ce n'est pas le cerveau, c'est la société. Je veux dire par là que les enquêtes de l'historien dans ce domaine sont plus ou moins fructueuses et que plutôt que de commencer par des problèmes esthétiques ou poétique ou affectif, il vaut mieux commencer par les pratiques sociales de la couleur, le vocabulaire, la fabrication des pigments et des colorants, les codes de la couleur, le vêtement, qui est le grand système social autour de la couleur, avant de passer à des problèmes beaucoup plus compliqués, touchant à l'affectif ou à l'onirique.
Mais également, ce qui a été très fructueux, pas également, c'est une suite d'une... presque, en fait, une logique devant laquelle je m'incline encore, c'est votre ouverture à des idées. Il n'y a eu aucun projet dans ma vie de professeur d'université, aucun projet dont je vous ai parlé et qui n'ait pas rencontré un écho chez vous. Très rare chez les hommes occupés, hommes et femmes occupés, mais il y a eu cet écho. Ce qui a permis, par exemple, enfin j'étais souvent très perplexe, le musée d'Aquitaine m'avait commandé une sorte de colloque sur le Moyen-Âge dans leur cadre magnifique et avec des conditions d'accueil très estimables. Et alors les responsables d'un projet qui n'avait pas de forme, une sorte d'ovni, m'ont dit surtout pas de machicoulis, surtout pas de pont-levis, on voudrait quelque chose de neuf. Bon, j'en parle à Michel, et puis nous arrivons, je pense que l'idée vient de vous pour la formulation, l'Orient au miroir de l'Occident. Ça a été un colloque absolument magnifique, une véritable leçon aussi de culture regardant d'autres cultures, avec des croisements de disciplines, les oreilles des éléphants n'étaient pas absentes de ces enquêtes, et une fois de plus, vous nous avez montré là, au cours de ce colloque au musée d'Aquitaine, vous nous avez montré que les objets, les espaces, les parcours, les voix qui énoncent ne sont jamais à simple entente. Je me souviens d'une soutenance de thèse ici à la Sorbonne où un membre du jury disait à un candidat qui soutenait une thèse d'État « Mais enfin, mon cher, vous allez loin dans l'interprétation, un chien est un chien. » Bon, voyez-en quoi, Georges Duby, qui était au jury, est venu me voir après en disant « Il est toujours comme ça ?» J'ai dit, oui, mais allez voir chez Michel Pastoureau. Et ça a été le début de lumières multiples portées sur le fait qu'un chien est un chien, bien évidemment, mais est aussi bien autre chose, sans aller chercher les chiens de tel empire, etc. Mais dans le contexte médiéval, dans les codes littéraires médiévaux, en tout cas, le chien a sa place, et il a largement sa place dans vos propres documents. Grâce à vous aussi, donc l'Orient au miroir de l'Occident, nous avons souvent parlé, vous êtes intéressé par la réception, par les mutations des systèmes, la notion de système vous est très chère, et elle est excellente. Vous êtes très intéressé par les phénomènes de réception, et le fait qu'en littérature, par exemple, il y a des mouvements étonnants de poétique, enfin donc de ces lois qui président à la composition des textes et qui marquent à quel point le livre, le statut, les pratiques de lecture sont modifiées et les infléchissements des matières narratives héritées donc de la moyenne durée de l'époque dite classique. Et par suite, donc, nous avons travaillé ensemble et nos conversations ont toujours été très précieuses. Nous avons travaillé ensemble sur le goût du lecteur à la fin du Moyen-Âge, le romanesque également à la fin du Moyen-Âge, et ceci n'était pas strictement emballé en quelque sorte dans un cadre de colloque de littéraire. Et de cela aussi, disons, je peux tirer un sentiment de très très grande gratitude et aussi beaucoup de joie à travailler, à vrai dire.
Merci Daniel, mais c'est à double sens parce que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la littérature, et spécialement à la littérature médiévale, et plus encore au roman arthurien. Mais je les étudie du point de vue de la société, du point de vue de la réception et de la diffusion de ces textes et de ces œuvres. Donc j'ai besoin des conseils de mes amis littéraires, même si je me débrouille pas trop mal avec l'ancien français. Quelquefois quand même j'ai des problèmes. Et c'est toujours fructueux, naturellement, de partager ou de collaborer à propos des romans arthuriens. Je crois bien connaître la légende arthurienne, mais plutôt du côté de la réception. Par exemple, je suis intéressé à la diffusion des noms des chevaliers de la table ronde dans la société véritable, masculine, qui montre qu'on préfère très nettement Tristan à Lancelot, et d'autres témoignages vont dans le même sens. Je peux même prouver que Lancelot est un personnage détesté du public médiéval, bien qu'il soit le meilleur chevalier du monde. Je me souviens d'un tournoi qui est organisé à la cour de René d'Anjou, mais la cour Lorraine à Nancy au milieu du XVe siècle, où les participants des deux camps prennent les noms et les armes des chevaliers de la table ronde. Personne ne veut faire le rôle de Lancelot. C'est un personnage beaucoup trop dévalorisant. En revanche, des héros qui pour nous sont, pour les spécialistes des textes littéraires, sont des héros de deuxième zone, sont très recherchés. Bohort, qui est presque le préféré, parce que c'est le survivant de la légende arthurienne, le passeur, le témoin, mais Sagremort, Dinadan et quelques autres. J'ai intéressé également à l'iconographie de cette légende arthurienne qui longtemps était laissée à l'abandon, qui aujourd'hui a suscité récemment des travaux relativement nombreux. Donc j'ai toujours plaisir à collaborer avec des historiens des textes littéraires et même hors du Moyen-Âge. J'ai eu la chance d'être, au sortir de l'école des Chartes, conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, où je suis resté 8 ans avant d'être élu aux études. Et c'est un lieu qui a une bibliothèque pour l'Antiquité grecque et romaine absolument magnifique. Et en 8 ans, j'ai compléter, améliorer mon bagage. Je me suis passionné pour l'histoire romaine. Et donc, je déborde souvent le Moyen-Âge en amont, du côté de Rome, un peu moins vers la Grèce. Et en aval, bien sûr, le livre qui est ici parle de La Fontaine, pour son bestiaire, et de Nerval, surtout, pour qui j'ai une passion personnelle, et dont on sait qu'il avait lui-même un goût pour le Moyen-Âge très prononcé. Et puis, plus en aval encore, je m'intéresse à beaucoup de problèmes du monde contemporain, mais peut-être ce que je connais le mieux, c'est le sport, qui pour l'historien des signes, des emblèmes, des couleurs, est un champ d'observation absolument extraordinaire. Je ne sais pas si je suis vaniteux, mais je crois que la chose dont je suis le plus fier, je pense que c'est d'être associé à des jurys ou à des enquêtes et des travaux qui vont des peintures du paléolithique jusqu'au sport et à l'art contemporain, en passant par la philologie latine, plus les domaines dont je suis vraiment spécialiste. Ce qui fait que je suis un peu un touche-à-tout. Et je crois que on pourrait me reprocher de penser en largeur et pas en profondeur. Et je pense que mes élèves qui viennent à mes cours depuis longues années, parfois depuis 30 ans, à l'école pratique des hautes études, doivent se dire, mais Pastoureau, il effleure les sujets, il ne les approfondit pas. J'en ai conscience, je sais qu'il faudrait aller plus à fond, mais ça m'empêcherait d'aller plus en étendue. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de faire tomber les barrières entre les documents et les disciplines et essayer de croiser des informations tirées de terrains documentaires variés, tout en gardant à chacun de ces terrains documentaires ses spécificités, bien sûr. Ça n'est pas impossible, surtout quand on est médiéviste, où on a la chance, par rapport aux antiquisants ou aux modernistes, d'avoir ni trop peu de documents. Il y a un assez bon équilibre. Les antiquisants en manquent cruellement. Les contemporanéistes en ont beaucoup trop. Ils sont obligés d'être incroyablement spécialisés. Nous, médiévistes, on peut être spécialistes de plusieurs domaines. Et l'héraldique, qui est à la fois texte et image, a fait de moi quelqu'un qui est à l'aise avec les textes et avec les images. Oui, c'est vrai. C'est un peu narcissique, là, tout ce que je raconte.
Non, un exercice. Pas du tout. C'est une démarche très authentique.
Mais Daniel et moi, nous essuyons les plâtres, hein, puisque ce genre, les mardis de l'école des Chartes, en sont à leur première.
Oui, mais je pense que le public ne sera pas trop déconcerté. Ce que je voulais ajouter, alors, il y a, j'imagine, quand même une logique qui se dégagera en fin de parcours tout à l'heure. Ce qui m'a frappé dans l'édition, bon, l'édition en poche est très très bienvenue parce que tout le monde peut désormais la voir, travailler, crayonner, etc. Il est évident que j'ai l'édition originale ici qui a été lue bien à temps en 2004, si je ne me trompe. Ce qui m'a frappé, c'est l'accent que vous mettez et en fait, cet accent est placé sur... disons, dans tous les articles, tous les livres que vous publiez, fussent-ils, disons, de splendeur ornementale. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont vous insistez sur un structuralisme très dynamique, sur la notion de système, d'organisation des signes, de matière ouverte au mouvement. J'utilise le terme matière comme je le fais en littérature, des matières qui se réorganisent. Vous vous intéressez à la notion de système, ce qui implique une attention extrêmement fine aux mutations. Et en particulier pour un domaine qui n'est peut-être pas très aimé, bon, vous êtes quand même, j'imagine, plus historien que littéraire, mais ce qui est frappant, c'est le Moyen-Âge dit d'automne, le Moyen-Âge tardif pour la production romanesque. Elle est souvent sèche, elle est souvent mal aimée. Dans l'ensemble, les textes sont publiés ou vont être publiés. Mais il est très intéressant de voir les nuances qui font que des matières anciennes, enfin venues enfin, du début du XIIIe siècle, des motifs sont réinvestis dans des constructions extrêmement, extrêmement cohérentes. Et là, travailler avec les historiens soucieux des systèmes est un, disons, une leçon méthodologique tout à fait précieuse. Car les littéraires, et évidemment, sont des savants également, mais on s'enferme volontiers dans le monographique. Ce que personnellement je déplore et je n'aime pas trop, ce qui est probablement une faille chez moi, j'aime beaucoup traverser la longue durée, ce qui permet de voir, comme font les ethnologues d'ailleurs, Félix Lecloix, dont l'érudition n'était pas mise en cause, disait que le meilleur, disons que médiéviste et ethnologue, je ne me souviens pas de la formulation de la note à proprement parler, mais il disait que médiéviste et ethnologue devaient travailler ensemble, que les textes médiévaux étaient une sorte de laboratoire d'un très grand prix pour les ethnologues. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, bon, mais il n'est pas question de moi aujourd'hui, mais je m'évade si volontiers chez les anthropologues, ethnologues, ils m'apportent infiniment, alors que les littéraires médiévistes purs font des travaux admirables que je lis et que je ne suis pas capable de faire pour ma part parce qu'ils sont trop cloisonnés. Donc le comparatisme que prônait Félix Lecloix, je l'assume totalement, je le trouve absolument passionnant, moteur, stimulant.
J'ai suivi pendant quelques années au Collège de France les cours de Félix Lecloix, qui était assis là d'ailleurs le jour où moi j'ai soutenu ma thèse d'école des Chartes là. Et c'était un océan de savoir, Félix Lecloix. Et à chaque séance, il rappelait qu'il était né à Saint-Tropez. Ce qui est vrai, et ça revenait constamment dans son enseignement. Et chaque fois qu'il comparait du vocabulaire dans les différentes langues romanes, on en revenait naturellement au provençal et puis au dialecte de la région de Saint-Tropez. C'était absolument passionnant. Je crois que c'est cette ouverture qui a fait que nous nous sommes rencontrés, Daniel, et que nous avons pu fructueusement échanger. Moi aussi, j'aime bien que les barrières tombent entre les disciplines. J'ai eu la chance d'être jeune chercheur dans une période où elles étaient en effet tombées, ou en train de tomber, avec l'idée que c'était au carrefour des disciplines que se faisaient les véritables découvertes. C'est très vrai dans les sciences dures et dans les sciences biologiques. C'est vrai aussi dans les sciences humaines. Malheureusement, aujourd'hui, mes étudiants ne peuvent plus s'offrir un tel luxe. La crise étant là, les budgets réduits, les postes encore plus, on demande à chacun des jeunes d'avoir une étiquette claire. Et si vous êtes à cheval sur histoire romaine, histoire du haut Moyen-Âge, ou histoire de l'art et histoire littéraire, vous êtes chassé de partout. On va vous dire, mais allez plutôt voir chez nos collègues, vous êtes plutôt moderniste que médiéviste. Autrefois, c'était un plus. Aujourd'hui, intellectuellement, tout le monde continue de dire que c'est un plus, mais institutionnellement, ça devient un handicap considérable. Et ceux de mes étudiants qui essayent de faire comme moi, c'est-à-dire travailler sur différentes époques et différentes catégories de documents, finissent par être, sauf exception, très très handicapés. Donc les plus jeunes dans cette salle, intellectuellement, continuer à pratiquer la polyvalence et la pluridisciplinarité, mais institutionnellement, donnez-vous des étiquettes claires, même en mentant un peu. Mais pour être candidat à ceci ou à cela, c'est devenu indispensable. Et en discutant avec des collègues venant du monde des sciences dures, c'est encore pire chez eux. Hein. Pour moi, il y a la physique, mais pour eux, il y a 300 sortes de faire de la physique. Et il faut être pointu comme ça pour être candidat à un poste et pas polyvalent, même si les grandes découvertes se font à cheval sur différentes sciences ou disciplines.
Parce que fonctionnement curieux du monde institutionnel, chez nous en tout cas, je ne sais pas, je pense qu'on respire peut-être ailleurs, mieux, enfin, on le pense. C'est que les postes sont très souvent profilés, quitte à ce qu'on joue totalement des frontières au moment des recrutements. Ça, les postes profilés, c'est la terreur des candidats. Je ne suis pas assez ceci ou cela, je suis 16e, mais attention, je me suis occupée un tout petit peu du début du 17e, est-ce que cela va nuire ou pas? Moi, je trouve ça tout à fait, enfin, c'est absolument désolant.
C'est affligeant.
Oui, oui. Poste profilé. En tout cas...
Mais c'est parfois pire dans les pays voisins, donc...
Ah oui. Vous pensez à...
Je pense, par exemple, à l'Allemagne, que je connais bien. En Italie, il n'y a même plus de poste, donc les problèmes ne se posent pas. Aux Pays-Bas, c'est peut-être encore pire qu'en Allemagne. La Suisse reste assez ouverte, curieusement. Oui. Enfin, la Suisse romande, en tout cas. Je fais quelques cours à Lausanne et à Genève, et je peux comparer le système universitaire suisse, que j'aime beaucoup, et le système universitaire français. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a encore, pas pour combien de temps, mais il y a encore de l'argent. Donc, les choses fonctionnent bien.
En revanche, la réduction des postes dans une société qui n'est plus forcément l'Occident où nous sommes, aux États-Unis par exemple, la réduction des postes fait que les enseignants sont souvent recrutés pour couvrir, en tout cas pour l'enseignement, pour couvrir un nombre de siècles tout à fait étonnant. Mais en Allemagne, il y a aussi cette tradition de la formation universitaire qui fait que les collègues allemands, très très souvent, ont une double spécialité. Ce qui, en soi, j'ai toujours trouvé que ceci était très fécond. On peut être excellent médiéviste, comme Friedrich Wolfzettel, et être très bon 18e.
Oui, l'habilitation oblige à changer complètement de sujet de mémoire de thèse. Pas du tout la même chose que pour le doctorat, ce qui fait que, en effet, on peut faire son doctorat sur l'enluminure médiévale, et puis... la thèse d'habilitation sur les impressionnistes ou sur l'art abstrait. Quand on est historien de l'art, c'est assez fréquent. Mais après, dans les candidatures et dans les postes ouverts, ça peut être très, très cloisonné. Pire encore, je me souviens, c'est une anecdote dont je ris aujourd'hui, mais un collègue allemand m'avait demandé de venir faire trois cours, dans l'université de Dresde, il y a une quinzaine d'années. J'avais accepté, il fallait les faire en allemand, je suis germaniste, mais c'était quand même lourd pour moi de préparer trois cours en allemand. Et puis, quand j'ai fait mes cours, ce professeur n'était pas là, qui m'avait invité, alors... La deuxième fois, au deuxième cours, je demande au maître assistant qui était là, mais il est malade, il n'est pas là. Et très gêné, il m'a répondu que mon cours avait été classé cours de licence, alors que comme lui, il était professeur titulaire, il n'avait pas le droit d'assister à un simple cours de licence, donc il s'était dispensé d'assister. Ça peut être l'université allemande. C'est pas partout comme ça, mais c'est quand même terrifiant. Le même enseignant, d'ailleurs, m'avait invité avec quelques-uns de mes étudiants pour les mettre en commun avec ses propres étudiants. On avait une belle journée de discussion. Et puis à la fin, chacun des étudiants présentait son sujet de thèse et puis répondait aux questions qui lui étaient posées. Et alors, les étudiants français répondaient eux-mêmes aux questions, mais les étudiants allemands n'avaient pas le droit de parler. C'était le professeur qui répondait à leur place. C'était une façon de faire très, très académique et un peu rigide. Ça a peut-être changé depuis, c'était il y a une quinzaine d'années.
Bon, c'était de loin pas le cas pour les États-Unis avant 1968. Quand on revenait des États-Unis, ce qui a été mon cas, on me disait, mais vous n'avez pas trouvé que le climat a changé, que les étudiants vous mettent plus en cause, etc. Je disais non, parce qu'aux États-Unis, c'est très courant, ils vous évaluent. C'est très bien. Donc moi, j'ai vécu une forme d'innocence à travers cette mutation du regard des étudiants sur la voie d'autorité. Ça ne m'a personnellement jamais gênée. Mais si nous en revenions aux animaux, cher Michel, ces animaux dont je n'ai pu que vous donner cette anecdote absolument terrifiante, un chien est un chien, mais un porc, une truie, c'est un personnage extrêmement intéressant. Dans les institutions médiévales, donc des documents sociaux particulièrement riche, et par ailleurs, en littérature, l'ours a un destin tout à fait remarquable, le lion aussi. Et là, vous avez évidemment des richesses que nous, littéraires, enfin du moins pour ce qui me concerne, je n'aurais jamais, jamais pu aborder.
Oui, j'ai consacré ma thèse au bestiaire héraldique, donc j'ai continué à travailler sur les animaux et sur la zoologie. Je me suis intéressé à des sujets qui relevaient autrefois de la petite histoire, les procès d'animaux, par exemple, c'était l'occasion de ricaner des pratiques et des croyances de nos ancêtres qui conduisaient des cochons au tribunal, qui les jugeaient, qui les pendaient, etc. Et puis, l'histoire récente, tout peut être objet d'histoire aujourd'hui, a montré que l'animal était un sujet carrefour pour les historiens et que le Moyen-Âge était particulièrement bavard sur les animaux. Donc, on peut étudier ces procès faits aux animaux sous des angles différents d'autrefois. Je me suis aperçu que ces enquêtes mettent le plus souvent en avant des cochons. Ce sont des truies, des verrats qui sont conduits au tribunal. Ça m'a invité à réfléchir sur le statut du cochon comme cousin de l'homme ou animal proche de l'homme. Et en effet, plusieurs auteurs du Moyen-Âge nous racontent qu'il y a trois animaux qui ressemblent à l'homme. Le porc, en raison de son organisation interne. On a l'idée dans les écoles de médecine que à l'intérieur, du point de vue anatomique et fonctionnel, tout est pareil entre l'homme et le cochon, ce que la biologie la plus contemporaine confirme parfaitement, et ce que disait déjà la médecine antique. Donc le Moyen-Âge n'innove pas. C'est pour ça que, au Moyen-Âge, comme l'Église interdit de disséquer le corps humain, l'anatomie humaine s'enseigne à partir de la dissection du verrat ou de la truie. Le deuxième animal qui ressemble à l'homme et auquel j'ai consacré 15 ans de recherche et 4 ans de séminaire, c'est l'ours. Je vais attaquer à une histoire culturelle de l'ours en Europe. Mais là, c'est l'aspect externe qui est concerné. L'ours peut se mettre debout, manier des outils, grimper, nager, danser. On croit même, jusqu'en plein XVIIe siècle, que les ours mâles sont attirés par les jeunes filles, les jeunes femmes. Ils les violent, ça donne naissance à des êtres mi-hommes, mi-ours, qui sont souvent des fondateurs de dynasties ou des guerriers invincibles. Bref, et puis plusieurs auteurs, et c'est assez amusant, soulignent qu'il y a un troisième animal qui ressemble à l'être humain, c'est le singe, mais qu'au fond, il lui ressemble pas du tout, mais il est tellement diabolique qu'il fait semblant de lui ressembler. Et on refuse ce cousinage des apparences, en tout cas, pour le singe, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que ce soit enfin accepté. J'ai quelques vedettes comme ça dans le bestiaire, auxquelles j'ai consacré des travaux plus monographiques. Ce sont des grands réprouvés. Dès qu'on travaille sur du péjoratif ou du négatif, les documents sont plus nombreux et plus subtils. Si vous travaillez sur du laudatif, le terrain documentaire est un peu plus pauvre. Mais dès qu'on a affaire au mal, au dévalorisant, au négatif, à un titre ou à un autre, vous avez des milliers de documents qui se présentent à vous, et ça permet de hiérarchiser le négatif. Et donc moi, j'ai travaillé énormément sur le porc et sur les rapports entre l'homme et le cochon. Ça m'a conduit à m'interroger sur les interdits entourant cet animal, et la littérature est océanique sur les tabous qui entourent le porc dans différentes cultures. En historien, j'ai l'impression qu'une des raisons, sans doute pas la seule, mais c'est ce cousinage biologique entre le cochon et l'homme. On dit toujours qu'il y a entre l'homme et les grands singes 96 ou 97% d'ADN en commun, mais on oublie de dire qu'entre l'homme et le cochon, c'est 95%, donc c'est presque pareil. C'est pour ça d'ailleurs que la médecine utilise tellement de porcs aujourd'hui pour des greffes d'organes, des greffes de peau, pour l'insuline, jusqu'à des dates récentes, et ainsi de suite. Surtout que c'est un animal qui n'est pas en voie de disparition, il n'est pas protégé. Donc j'ai travaillé sur le porc, j'ai travaillé sur l'ours, qui est un autre cousin de l'homme, et puis, depuis quelques années, mais je n'ai pas encore publié de livre, sur le corbeau, un animal qui laisse beaucoup de traces dans les documents en Europe, en tout cas, dont les anciens parlent énormément, soulignant que c'est le plus intelligent de tous les oiseaux. Le christianisme part en guerre contre le corbeau, qui s'est mal conduit dans l'épisode du déluge, et ainsi de suite, qui en plus a un pelage tout noir. Mais les enquêtes les plus récentes sur l'intelligence animale non seulement confirment que le corbeau est le plus intelligent de tous les oiseaux, mais probablement de tous les animaux. Il est au niveau des grands singes. Et la taille du cerveau, donc, n'a pas tellement d'effet sur, en tout cas, les expériences que l'on réalise sur l'intelligence animale. Évidemment, là, mon savoir est de deuxième ou troisième main, mais en historien, je vais jusque-là, et cet animal est absolument fascinant en raison des peurs qu'il a suscitées, des destructions dont il a été victime, et en même temps, de ce qu'il fait, hein. Aujourd'hui, on admet, la plupart des zoologues et des ornithologues admettent que le corbeau est un des très rares animaux qui pratique l'humour. Il joue des tours aux autres oiseaux, se moque des autres oiseaux, ce que Pline dit presque déjà dans son Histoire naturelle.
Éclairage intéressant pour nous en littérature, c'est forcément plus limité, mais il y a relativement peu d'ours en littérature, je ne parle pas de renards, mais on comprend mieux la charge émotive, terrifiante, de l'apparition de quelques animaux. Je pensais à ce récit tardif, Valentin et Orson, tout à fait, enfin, qui est bricolé sans doute à partir de motifs multiples, que nous n'avons que sur un par incunable, transmission donc très limitée. Mais dans Valentin et Orson, l'ours est précisément un prédateur sexuel tout à fait redouté. Hein. Le frère qui s'appelle Orson a été élevé par les ours et lorsqu'il est libre de parcourir les forêts, il attaque les femmes, il les viole, quitte à devenir par la suite, lorsqu'il retrouve la cour du roi, quitte à devenir, lorsqu'on l'a soigneusement rasé et nettoyé, poli, embelli, hein, quitte à devenir un objet de grande séduction pour les femmes qui disent oh, superbe, il est superbe cet homme, mais il était terrifiant comme ours dans la forêt. Et toutes les apparitions de corps velus ou de corps recouverts d'une peau velue méritent toute attention dans nos textes.
Il y a une nouvelle magnifique, peut-être une des plus belles nouvelles de la littérature française, due à Mérimée, qui s'appelle Loki. C'est Mérimée à la fin de sa vie, et peut-être un texte écrit pour les dames de la cour impériale. C'est l'histoire d'une jeune femme en Lituanie, qui, la veille de son mariage, est enlevée par un ours, emmenée dans la forêt, où elle reste 3 jours, puis elle réapparaît, et le mariage peut enfin avoir lieu. Puis 9 mois plus tard, elle donne naissance à un être étrange, le comte Michel, qui est à peu près normal, sauf dans quelques circonstances particulières. Le texte de Mérimée ne donne pas beaucoup d'explications, mais il tourne vers le très sombre et le fantastique vers la fin. C'est une nouvelle magnifique qui montre que, donc, encore au XIXe siècle, des histoires d'ours amateurs de jeunes femmes et de jeunes filles avaient encore cours, au moins dans la création littéraire, et étaient recevables. Moi, j'en ai trouvé beaucoup à l'époque d'Henri IV et de Louis XIII pour le royaume de France. Pas des textes littéraires, mais des histoires d'ours rapteurs et violeurs de femmes. Dans la longue durée, d'ailleurs, quelque chose qui est constant hein, depuis la mythologie grecque. Paris, par exemple, le Paris troyen qui a abandonné au moment de sa naissance par un chasseur à la demande de sa mère. Il est élevé par une ours, puis plus tard il grandit, il devient le beau Paris, et il enlève Hélène, la belle Hélène. C'est le schéma de l'ours rapteur de femmes, c'est exactement ça. De la mythologie grecque jusqu'à Mérimée, il y a une constante. J'ai travaillé aussi, indépendamment des animaux pris individuellement, sur les ménageries princières, royales et princières, au moins pour l'époque médiévale. Ce sont toujours des signes de pouvoir. Un prince, un roi, un évêque, une abbaye même parfois, se doit d'avoir une ménagerie. Et les documents ne sont pas très bavards, mais quand on peut connaître la composition d'une ménagerie, on peut faire des comparaisons et voir comment les choses évoluent. De l'époque carolingienne jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine, il y a des animaux qui entrent, il y a des animaux qui sortent. C'est la même chose pour l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, pour l'historien des animaux, c'est un champ d'investigation considérable parce que le texte de la Genèse ne prononce aucun nom d'espèce animale. Donc, les imagiers, les artistes, quand ils mettent en scène l'Arche de Noé, la place est restreinte, ils ne peuvent pas mettre un grand nombre d'animaux. Voir quels sont les animaux qu'ils mettent à telle époque ou dans tel contexte culturel, hein, depuis l'art paléo-chrétien jusqu'au livre pour enfants le plus contemporain, c'est un document d'histoire culturelle considérable. Il y a un animal qui est toujours là, c'est le lion. Et puis les autres vont, viennent, il y a des ours jusqu'au XIIIe siècle à peu près, puis après le XIIIe siècle, un ours n'est plus intéressant, donc on va mettre des animaux plus exotiques, l'éléphant fait son apparition. À la Renaissance, fin XVe siècle, quand Laurent le Médicis reçoit à Florence une girafe, les girafes font leur entrée dans l'Arche de Noé, etc. Donc ce sujet qui a l'air comme cela un peu anodin, voire enfantin, c'est un extraordinaire document d'histoire culturelle et foisonnant. On a des milliers, peut-être des dizaines de milliers de témoignages figurés.
Quelle moisson ! J'aimerais aussi évoquer ce pouvoir de la genèse, si vous voulez, du monde arthurien. Non pas ses sources, mais je parle de cette vie que vous donnez au monde arthurien par votre travail sur l'héraldique, sur les armoiries, sur finalement un problème qui nous importe, enfin qui nous importe quand on travaille avec les anthropologues, le problème de l'identité, le problème de l'identification. Et là, vos travaux nous ont beaucoup apporté. D'abord, ces personnages, ce sont des lignages, ce sont des parentés complexes, ce sont des noms, des trous dans la parenté. J'ai rarement entendu autant d'informations de la bouche d'un médiéviste que de la vôtre. Donc des trous, des silences, des énigmes, des constitutions d'identité, des silences que les héros font sur leur propre identité, qui ne se nomment pas, qui retrouvent un nom, qui décident de se nommer à partir d'un certain moment. Tout ceci s'accompagne de signes retenus ou de signes exhibés, et c'est une dynamique très riche pour le chant romanesque le plus connu, le plus abondant de notre littérature, le chant romanesque arthurien.
Oui, jeune chercheur travaillant sur les armoiries attribuées aux chevaliers de la Table Ronde par les textes et par les images, j'ai dû de bonne heure faire des tableaux généalogiques pour m'y retrouver. C'est un monde, hein. C'est l'équivalent pour le Moyen-Âge de presque ce qu'est la mythologie grecque et romaine. J'ai toujours sidéré, moi, quand je vois dans les manuels pour élèves, ou pour lycéens ou pour étudiants, sur la littérature médiévale, que les auteurs, très sagement, donnent le même nombre de pages aux romans de chevalerie et aux chansons de gestes. Alors que pour l'historien du Moyen-Âge et du côté de la réception, c'est un rapport de 1 à 100. Pour 100 témoignages concernant la diffusion de la légende arthurienne, on en a un sur Roland ou Guillaume d'Orange. Il y a quelque chose là qui est totalement déséquilibré dans nos pratiques d'enseignement. Donc, j'étudie cette légende arthurienne depuis longtemps et c'est une légende de la parenté, le nom, l'identité, cacher son identité, révéler son identité. Gauvin n'hésite jamais à révéler son identité. Lancelot et Tristan cachent souvent leur identité. Et Daniel connaît très bien également la légende arthurienne et nous savons que certains personnages que les lecteurs habituels des romans de Chrétien de Troyes ou des grandes mises en prose du XIIIe siècle ne connaissent pas, mais certains personnages sont des maillons totalement clés de cette légende. Par exemple, la demi-sœur d'Arthur, la reine d'Orcanie, la mère de Gauvin et de ses frères, c'est le maillon central de la légende arthurienne par qui arrivent toutes les catastrophes. Non seulement elle a un enfant avec son demi-frère qui sera le traître Mordret qui mettra fin à tout ce monde arthurien. Mais en plus, une fois veuve, elle a des aventures avec le frère de Perceval, le Brou Lamora, le plus beau des chevaliers de la Table Ronde, ce qui lui vaut les reproches de ses fils. Elle est tuée par l'un d'entre eux. Enfin, la reine d'Orcanie, c'est un personnage de roman.
Vous les individualisez par leurs armoiries, vous sondez également des documents très particuliers que sont les armoriaux. Et avec des notations, non seulement les blasons, les armes portées, mais également de tout petits commentaires qui m'ont toujours frappée, que je ne suis pas allée voir moi-même, bien sûr, mais des petits commentaires sur le caractère, sur la séduction de tel héros, lequel séduit particulièrement. Il y en a un qui est très aimé des dames.
Ah, il y en a plusieurs, mais le plus séducteur, c'est ce Lamora, le frère puiné de Perceval. Et la haine du lignage de Perceval pour le lignage de Gauvin, c'est toute la construction de la légende arthurienne. On parle beaucoup trop souvent de Lancelot et de ses cousins, et de son demi-frère, mais c'est pas tellement important, Lancelot. Les histoires de Gauvin contre Perceval sont beaucoup plus importantes. Donc moi, je me débrouille assez bien là-dedans, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est compliqué. À la fin du Moyen-Âge et au tout début du XVIe siècle, certains auteurs ont compilé des... Pickford appelait cela des « wouzou » de la légende arthurienne, des dictionnaires biographiques, mais qui vont assez loin dans le détail. Il y a les noms, les armoiries, la parenté, les faits d'armes, les traits de caractère. Alors, empruntés aux textes littéraires eux-mêmes, et surtout les textes dérimés, les mises en prose du XVe siècle, mais parfois ils inventent aussi. Et alors, c'est passionnant pour les codes sociaux qui sont contenu dans ces descriptions de 150 ou 180 chevaliers de la Table Ronde. On est entre 1440 et 1520. Alors, comme je suis gaucher, je m'intéresse beaucoup aux gauchers. Alors, il y a quelques gauchers dans ces 180 chevaliers de Table Ronde, tous négatifs. Hein. Donc ça, c'est une constante dans la culture médiévale. Être gaucher, c'est très mauvais. Judas est souvent gaucher.
Il y a des roues aussi.
Alors, il y a des roues. Alors, les roues, c'est très mauvais aussi. Alors, roues et gaucher, comme Judas. Voilà. Et la troisième paramètre, c'est être gros. Étant gros, je m'intéresse à l'histoire de la corpulence. J'ai fait mes enquêtes surtout pour l'époque féodale. J'ai appelé ça le temps des rois obèses. Du XIe au XIIIe siècle, il y a un très grand nombre de rois corpulents, à l'image de Louis VI le Gros. Mais il y en a plein d'autres, hein, des empereurs allemands, des rois d'Angleterre, des rois de France. Et alors, il faut faire du tri, parce qu'il y en a qui étaient vraiment obèses, surtout à la fin de leur vie, comme Guillaume le Conquérant, ou comme Philippe Ier, roi de France. Puis il y en a d'autres qui ne l'étaient pas, mais que les chroniqueurs qualifient de crassus, obésus, corpulent, etc. En gros veut dire ennemi de l'Église. Mais on peut être très mince et qualifié de gros. C'est assez fréquent, donc il y a une grande prudence. Le choix des mots, d'ailleurs, pour qualifier la corpulence du corps est toujours important. Je suis très attentif aux problèmes de vocabulaire. Je suis plus à l'aise avec le latin qu'avec les langues vernaculaires, mais le choix des mots n'est jamais indifférent dans les textes médiévaux, même dans les textes les plus bas de gamme, si je puis dire. Et nous, souvent, nous employons un mot pour un autre. Je prends un exemple qui revient constamment. Nous faisons des presque synonymes, des adjectifs réels, vrais, justes, exacts. Ça a l'air à peu près pareil. Hein. Vrai et réel, c'est la même chose. Pour la culture médiévale, ça n'a aucun rapport. Le vrai, c'est de l'ordre de la métaphysique. Le réel, ça se passe ici-bas, c'est concret. Il faut être très très attentif aux mots. Et dans tous les terrains d'enquête que je fréquente, mes premières réflexions, c'est autour du vocabulaire. Je conseille toujours à mes étudiants de commencer par l'étude des mots. Ça nous apporte vraiment beaucoup.
On voudrait avoir trois temps de vie. Je pense à tout ce qui n'a pas été fait en littérature. Par moi-même, pour commencer, très difficile d'être lexicologue et d'avoir l'esprit d'observation des systèmes. Enfin, là, je m'avance peut-être un peu, mais je reste questionnante à cet égard. J'aimerais juste citer la fin de votre introduction. Ce livre, donc, paru en poche, me semble essentiel. Je me répète peut-être, il me semble essentiel parce qu'on a là, d'une façon très dense, un regroupement d'articles qui ont été partiellement retravaillés, qui sont en tout cas présentés introduits par une préface extrêmement riche, que j'ai redécouverte, à vrai dire, là, en me préparant un peu à vous rencontrer, à être votre discutante. Il y a là des leçons de méthode qui, précisément dans un livre qui comporte peu d'illustrations, etc., devient un véritable livre de réflexion. Encore que les autres volumes le soit aussi, mais là, c'est une synthèse. tout est densifié, tout est proposé comme réflexion sur la méthode. Et voilà ce que vous nous dites en fin de cette introduction très riche. Ce qui est vrai des nombres l'est aussi des formes, des couleurs, des animaux, des végétaux et de tous les signes, quels qu'ils soient. Ils suggèrent et modalisent tout autant qu'ils disent. Ils font sentir et rêver plus qu'ils ne désignent. Ils font entrer dans cette autre part de la réalité qu'est l'imaginaire. On ne saurait mieux le dire. En ce qui concerne, me permettez-vous de citer un petit passage. J'ai revu certains textes, et avec grand plaisir aussi, en me préparant à être votre discutante. J'ai relu certains textes, en particulier le roman de Durmar, dont vous me disiez il y a des années déjà, où je l'aime beaucoup. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aviez oublié. Moi, non. Enfin, du moins, je suis allée le retrouver. Et Durmar le Gallois, donc matière arthurienne. Et là, Michel, vous êtes détenteur de ce que j'appellerais un pinceau lumineux. Vous nous faites voir ces chevaliers dans quelque chose qui est un énorme topos, qui est la bataille. Or, les armoiries interviennent dans la bataille, et là, vous créez un mur pour les littéraires traducteurs. Car dans tous les cas que j'ai pu trouver, les traducteurs prennent le vocabulaire de l'héraldique, ne vont pas chercher la vérité, disons, de ce qui se cache derrière ces termes. Effectivement, il y a une poétique des mots. Sinople, il y a là un enchantement que mes collègues ont toujours gardé, moi sans doute aussi, j'ai dû commettre ce péché. Et si on transposait en langue véritable, que donneraient les textes? Voilà en tout cas Durmar, le brave, à qui l'on demande quelles armes il souhaite porter. Et Durmar répond « Je les veux toutes blanches ». Bon. Il se rend à un tournoi, il est victorieux, et le lieu, dit le romancier, flamboie du clair éclat des armes, maintes bannières resplendies de l'or et de l'argent dont elles sont plaquées. Ça, vous m'expliquerez peut-être. Et voici que le Gallois apparaît avec un cheval revêtu d'une housse blanche comme neige. Messire Yvain, puisqu'il s'agit de la grande convocation des chevaliers arthuriens, apparaît sur son cheval alzan, écu d'or blasonné d'un lion vermeil rampant. Ça nous fait rêver à la Nerval. Et ainsi de suite, le roi Hider de Cornouailles porte un écu à l'aspect magnifique, fraîchement peint. Il était d'hermine. Sur l'écu, deux lionceaux rampants de sinople vermeil. La housse du cheval, de même. Bon, voilà que mes collègues, excellents médiévistes, je me suis heurtée moins facilement. Si, pour un texte du 15e, je me suis heurtée à ce problème d'équivalence. Mais généralement, même les historiens, ils ne traduisent pas, ils prennent les termes mêmes de l'héraldique. Et qu'en pensez-vous dans ce cas-là?
Quand on traduit en français moderne, oui, la langue du blason pose des problèmes, puisque c'est une langue qui s'est figée, et peut-être encore plus en anglais qu'en français, puisque pour un anglais de la rue aujourd'hui, une description d'armoirie en anglais moderne, c'est l'anglo-normand du XIIIe siècle, donc ça pose des problèmes de compréhension. Mais moi, j'aurais tendance à traduire dans la langue du blason du XXIe siècle, qui n'est pas exactement la même, même si c'est une langue figée, mais il y a des façons de faire. Et dans le texte que vous avez lu, il y a un contresens à éviter autour du mot sinople, qui, jusqu'au milieu du XIVe siècle, veut dire rouge, et à partir de la fin du XIVe siècle, signifie généralement vert. Là, dans le texte que vous avez lu, on voit bien qu'il est synonyme de vermeil, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais, évidemment, certains éditeurs ou traducteurs se trompent assez souvent. De même, l'orthographe étant instable, entre vert, la fourrure, V-A-I-R, et vert, la couleur, que n'a-t-on pas écrit comme bêtise sur des chevaux de couleur verte, ou sur l'omniprésence de la couleur verte sur les armures et sur les haumes d'acier resplendissant, donc latin varius et pas viridis. Mais les mots, en effet, sont très, très importants.
Et porteurs d'une, enfin, constitutive d'une poétique qui nous est propre.
Oui, il y a une poétique, il y a une sémantique, bien sûr, il y a une poétique, il y a une symbolique, il y a de l'ironie aussi, beaucoup. Ça, c'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte quand j'étais un jeune chercheur, mais dans ces romans de chevalerie médiévaux, et dans les romans arthuriens particulièrement, il y a une forte dimension d'ironie qui oblige à penser les choses au deuxième ou au troisième degré. Et c'est assez fréquent dans les documents du Moyen-Âge. L'étymologie, par exemple, nous ricanons parfois devant les étymologies proposées par les auteurs du Moyen-Âge, alors que ce sont des documents d'histoire à part entière. Mais il faut garder à l'esprit que certains se moquent un peu de ce qu'il raconte. C'est le cas d'Isidore de Séville assez fréquemment dans ses étymologies. C'est pas toujours à prendre au premier degré. Mais ça, évidemment, je m'en suis aperçu que progressivement, avec la fréquentation des textes et l'acquisition qui ne peut se faire qu'à la longue d'une certaine connivence avec les auteurs et les subtilités qu'ils introduisent dans les mots et les formules qu'ils emploient. Mon regret, c'est de ne pas connaître plus de langues pour mieux apprécier tout cela. Je suis assez à l'aise avec le latin, bien sûr, déjà un peu moins avec l'ancien français. Le moyen-allemand pose pas mal de problèmes. Quand on le lit à haute, c'est comme l'ancien français. Si on le lit à haute voix, qu'on est germaniste, ça va. Mais je suis handicapé pour d'autres langues.
Un auditeur questionne Michel Pastoureau sur l'expérience qu'il a pu tirer en étant conseiller dans différentes opérations de restitution ou de restauration, comme par exemple au château de l'Échiquier à Caen, ou encore sur des films.
Je n'ai pas été souvent conseiller historique sur des films, mais deux expériences m'ont marqué. L'une avec Éric Rohmer pour son Perceval. J'étais jeune chercheur et j'étais un peu intimidé par Éric Rohmer, évidemment, qui était venu me voir 3 jours de suite. J'étais encore conservateur à l'ABN. Un jour de panne de chauffage en plein hiver. Et Rohmer était lui-même un homme timide et de cette timidité qui est intimidante pour l'autre. Mais enfin, on avait pu échanger, il voulait savoir beaucoup de choses sur les chevaliers Tadeuronde, les costumes, les couleurs, les armoiries, il avait pris des tas de notes. Et puis quand j'ai vu le film en avant-première, il avait oublié tout ce ou fait exprès de ne pas respecter tout ce qu'on avait dit. Et je lui avais dit, surtout pas de violet, c'est une couleur qui n'existe pas à la fin du XIIe siècle, du violet partout. Est-ce qu'il a perdu ses notes? Est-ce que... Il a voulu faire exprès de ne pas suivre les recommandations de l'historien. Et la deuxième expérience, c'est avec Jean-Jacques Annaud pour Le Nom de la Rose. Mais là, c'était une grosse machine. Donc, nous étions 8 conseillers historiques. J'étais l'un d'entre eux chargé des couleurs et des vêtements, des emblèmes, des insignes. Et je me souviens qu'au dernier moment, je me suis souvenu qu'il y a une scène qui impliquait des cochons. Et en tant que spécialiste du cochon, j'aurais dû le savoir, mais je m'en suis souvenu assez tard que, bien sûr, au début du XIVe siècle, les cochons n'étaient pas roses, mais noirs, gris, bruns. Et alors, il a fallu, je l'ai dit, il a fallu trouver des cochons noirs, mais le temps manquait pour trouver des vrais cochons noirs. Alors on a peint à la bombe des cochons roses en gris et en noir, lesquels se sont frottés les uns aux autres. Ça faisait une scène d'un gore épouvantable, mais ça beaucoup plus à Jean-Jacques Annaud. Mais l'expérience intéressante était celle-ci quand même. Le metteur en scène pose aux historiens un certain nombre de questions et ça nous fait prendre conscience à nous historiens qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Là, l'histoire se passait donc dans les années 1320-30. Pour ces périodes, nous connaissons bien la culture matérielle, la vie quotidienne, les objets, etc. Pas de problème pour reconstituer une abbaye vers 1320. Nous connaissons bien les mentalités, la vie intellectuelle, la vie religieuse, les déviances, les hérésies, tout ça est bien connu. Et puis entre les deux, il y a toute une zone de savoir qui nous échappe, et notamment le metteur en scène posait des questions sur les gestes. Comment on se dit bonjour au début du XIVe siècle dans une abbaye entre laïcs et entre moines ? Il ne savait pas répondre. Il avait même un problème de budget. Il voulait savoir à quel moment les moines avaient le capuchon sur la tête et quand ils ne l'avaient pas, parce qu'il avait des figurants qu'il devait tonsurer, et naturellement, ceux tonsurés étaient payés plus cher. Il ne voulait pas en payer trop. Donc, s'il gardait le capuchon sur la tête, il n'y avait pas besoin d'aller tonsurer. Naturellement, les historiens ne savaient pas répondre à cela, même les historiens de la vie monastique, et ce sont des moines eux-mêmes, contemporains, qui ont donné quelques pistes. Donc l'expérience est utile parce que ça nous fait prendre conscience de nos ignorances. Et elles sont relativement nombreuses. Par exemple, en effet, tous les gestes de la vie quotidienne nous échappent, ou presque tous les gestes. Nous avons les gestes dans les images, mais les images ne photographient pas au premier degré la réalité, ni pour les gestes, ni pour rien d'autre. Voilà, l'expérience fructueuse. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Voici une nouvelle question posée par un auditeur à Michel Pastoureau. Est-ce que dans votre parcours historique, vous n'avez jamais rencontré le mot byzantin ? Si oui, pourquoi et qu'en avez-vous fait ?
J'ai quelques remords et conscience de mes ignorances ici encore. Je sors du cadre français fréquemment, je travaille souvent sur le monde germanique. un peu sur le monde britannique, sur l'Italie, même sur la Scandinavie, et j'ai deux absences. Le monde byzantin, où vraiment là mes ignorances sont grandes, je l'avoue, et la péninsule ibérique. Je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que c'est un problème de langue, c'est un problème d'occasion, d'invitation, d'amitié, que je n'ai pas. En tout cas, ce sont deux lacunes, et quand on me lit et que je donne des exemples, que je propose des enquêtes chiffrées, ces zones-là sont absentes. L'Europe orientale, par la Pologne, est un peu présente. Je suis souvent allé en Pologne, mais Byzance et la péninsule ibérique sont absentes. Alors que le monde musulman, où mon savoir est un savoir de deuxième main, bien sûr, je le prends parfois en compte, notamment pour ce qui concerne les couleurs.
Une auditrice adresse une nouvelle question à Michel Pastoureau. Pensez-vous qu'il existe des domaines de l'histoire médiévale manquant de sérieux ? Si oui, lesquels ?
En historien, en chercheur même, je ne pense pas qu'il y a des domaines qui manquent de sérieux. Mais c'était le cas à la fin des années 60. On pensait qu'il y avait des sujets sérieux et d'autres qui l'étaient moins. Il y avait aussi cette idée qu'on a un peu oubliée, mais à cette époque, années 60, années 70, un jeune chercheur avait des devoirs envers la société. Et l'idée qu'il se fasse trop plaisir avec sa recherche, ça n'était pas dans l'air du temps. C'était même légèrement indécent, voire immoral. Et alors, le jeune Pastoureau qui frétillait en travaillant sur les animaux et sur les couleurs, non seulement ça semblait pas très sérieux, mais frivole, immoral. J'avais l'air de me faire trop de plaisir alors que les autres travaillaient sur des sujets qui auraient été utiles et à la communauté scientifique et à la société dans son ensemble. C'était ça l'esprit, souvent, même à l'école des Chartes. Il y avait l'idée que le jeune chercheur devait rendre ce qu'on lui avait donné. Et moi, avec mes sujets extravagants, je trichais, au fond. Bon, j'exagère un peu, mais il y avait un peu de ça. Aujourd'hui, moi, je conseille toujours à mes étudiants, que ce soit pour un mémoire de master ou pour une thèse de doctorat, que le choix du sujet vienne d'eux-mêmes. Et le rôle de l'enseignant, c'est de faire un peu de maïeutique et d'aider à accoucher. Mais je leur dis toujours de ne jamais se laisser imposer un sujet par un enseignant, un sujet dont, dès le départ, ils sentent qu'il va les ennuyer. Ça, c'est vraiment une mauvaise façon de travailler. Et comme aujourd'hui, tout ou presque tout peut être objet d'étude, que les champs se sont étendus presque trop parfois, autant en profiter et prendre un sujet avec lequel on a du plaisir à travailler. Mais évidemment, quand on est jeune, on n'ose pas toujours, on a peur de vexer tel ou tel enseignant qui vous propose ceci ou cela. Non, il faut un peu de courage et surtout de curiosité, et on travaille mieux quand on aime ce sur quoi on travaille. Alors le plus déroutant pour l'enseignant, c'est, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est le jeune étudiant, quand il y avait encore des maîtrises par exemple, qui sait pas, qui a pas d'idée. Alors on lui dit, mais vous préférez le Moyen-Âge ou l'époque moderne ? Je ne sais pas. Vous préférez travailler sur des textes ou sur des images ? Oh, je ne sais pas. Plus jamais ça.
On est dans un lieu savant ici et riche, je pense. Mais dans les universités, ce n'est parfois pas facile. Je voyais des étudiants, ils étaient très nombreux à faire des maîtrises en Moyen-Âge, en littérature du Moyen-Âge, c'était même affolant, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, hein ? Je sais pas, l'espèce de romanesque, de mauvais aloi, etc. Et je leur demandais, vous avez envie de travailler sur quoi ? 9 fois sur 10, la réponse était, les femmes. C'était désespérant. Les femmes, l'amour, hein ? Bon, c'était désespérant, parce que rares étaient les issues fertiles, hein ? Rares, très 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 rares. Mais c'était des étudiants de maîtrise, de jeunes étudiants. Bon, vers quoi s'orientaient-ils ? Je ne sais pas trop. Le professeur a des écoles bien souvent, mais en tout cas, il voulait de la femme et de l'amour. Voilà. Bon, c'est un fait de société aussi, mais bon... Ce n'est évidemment pas dans le monde des richesses que vous nous apportez, cher Michel.
Canal Académie vous a proposé une retransmission de la conférence organisée dans le cadre des mardis de l'École des Chartes. Daniel Boller, professeur de littérature du Moyen-Âge à l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux 3, et Michel Pastoureau, historien médiéviste français, correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, étaient les premiers intervenants de ce cycle. Pour connaître le programme des futures conférences, je vous invite à consulter le site de l'École des Chartes www.enc.sorbonne.fr. À bientôt sur Canal Académie pour de prochaines retransmissions.